mauvaise. Je regarde moins de séries.
Non.
Et j'arrête le binge.
Ah ouais, ouais, bah, là, j'ai vraiment bingé celui-là. Parce que c'est juste la première saison est disponible pour l'instant. Ils sont en train de tourner le deuxième. Il n'y a que 6 épisodes et c'est le petit épisode court, très facile à regarder. Ça, c'est en Irlande du Nord pendant les années 90, pendant The Troubles, comme on dit en anglais. Ça, c'est le conflit. En Irlande du Nord, ethno-nationaliste. Je ne sais pas si vous dites en français si,
oui.
si c'est un...
En 68, on n'a pas dit la guerre, on a dit les événements.
Les événements, ok.
Oui,
donc voilà, The Troubles, le trouble. C'est une espèce de sitcom léger. Ça suit la vie familiale d'une adolescente. Et malgré le cadre, c'est très léger en fait. Et c'est très drôle. Et en fait, on a une vision de la, famille, la vie familiale... dans une famille catholique là-bas, vraiment au cœur d'une ville, Derry, ou Londonderry, ils essaient de changer le nom, les Anglais.
Ouais.
Et bref, c'est très bien, c'est très touchant, avec les personnages assez drôles. Et peut-être, on veut dire un petit peu, c'est pas trois-dimensionnel. En fait, ils sont un peu caricatures plutôt.
Ouais.
Mais ça marche super bien, en fait, dans la série. C'est fait exprès.
Okay.
Et en fait, c'était drôle parce qu'en fait, en regardant ça, j'ai vraiment vu un petit peu ma vie familiale comme une Australienne avec les origines irlandaises.
Ouais.
En fait, il y avait plein de choses où j'étais « wow ». En fait, ils ont vraiment bien réalisé ça, avec la tradition d'aller prendre le fish and chips le vendredi soir et les choses comme ça. C'est vraiment, c'est bien fait.
Okay.
Et du coup, c'est un bon petit clin d'œil à cette culture-là et c'est très bien fait.
Ok, d'accord. Tu peux nous rappeler le titre ?
« Derry Girls ».
Et ça s'écrit Derry Girls ?
Derry, D-E-2-R-Y.
Ah oui, les filles de Derry. Okay.
Voilà, exactement.
Et tu as vu ça sur quel support ?
Netflix.
Ah, sur Netflix. Ok, voilà. Très bien. Puisqu'on est dans... Et toi, Annabelle, tu as regardé une série aussi ? Nouvelle ?
Alors, nouvelle, non. Ancienne avec une nouvelle saison, oui. Moi, je pense à Black Mirror. Qui est arrivé en fin d'année comme un petit cadeau de Noël après Noël. Le dernier opus, Bandersnatch. Donc, je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir vu.
Ouais, j'ai vu aussi.
Avec du coup ce jeu de ce film dont tu es le héros, qui est une super idée.
Oui.
Mais
ouais, ouais. Quand on la
tombe un peu à plat.
Alors...
Mais certains n'ont pas compris. Alors moi, j'ai compris. Donc dès le début, j'ai cliqué au bon moment. Les premières fois, j'avais même des petits papillons dans le ventre en me disant « qu'est-ce qui va se passer ?» J'avais vraiment l'impression de devenir actrice de la chose en question. Et puis au fur et à mesure, ça s'essouffle. Moi, je trouve qu'à un moment, il y a quelque chose d'un peu d'autopromotion de Netflix, moi, qui m'a assez gênée.
Ouais.
Et je n'ai pas ressenti, je pense... ce qui était l'objectif, à savoir d'avoir l'impression qu'on me faisait choisir des choses sans que je les choisisse vraiment. Et du coup, c'est en ça que j'ai trouvé que c'était pas si réussi, quoi.
Mmh. Ouais, je pensais aussi. Je pense que j'en fais un petit raccourci.
Tu as cliqué, toi, Teresa ?
Ouais, j'ai cliqué, moi.
Ah, d'accord. Donc, il n'y a que moi. OK. Bon, ben moi, j'ai pas cliqué. Alors, donc, sachez-le. Bon, on resitue. Hein. Donc, c'est un épisode. D'habitude, Black Mirror, ça dure plutôt une heure. Là, c'est un épisode qui dure 90 minutes en temps total. Mais en fait.
Quand on clique pas.
Quand on clique pas. Mais en fait, comme vous êtes intelligent plus que moi, vous allez cliquer. Vous avez souvent des choix binaires, en fait, qui sont proposés. Et donc, il me semble que le temps
de visionnage. Il n'y a que des choix binaires. Hein.
Oui, oui. Le temps de visionnage. Total, quand tu cliques, ça dépend un peu des choix, mais ça va durer finalement 30 minutes ou 40 minutes.
Ah non, ça a été long.
Beaucoup plus long.
Ah ouais. Moi j'irais, j'y ai bien passé 1h45, 2h.
Pour moi c'était comme un film en fait.
1h45 parce que normalement la durée maximum c'est 1h30. Alors est-ce que ça veut dire que tu as recliqué au même endroit sans faire
exprès ? Alors non, parce qu'en fait j'ai cliqué et puis je crois que quand je suis revenue j'ai dû recliquer. En fait dès qu'ils considèrent que tu te trompes, ils te font refaire le truc. En fait, quasiment.
Ouais.
Et donc, du coup, ça prend un temps fou de revoir les
séquences
exactement. Et en fait, c'est ça qui
que
était un
peu.
Tu
te trompes, c'est-à-dire.
Bah, en fait, ils n'ont pas prévu en fait le développement scénaristique pour toutes les options. Et donc, quand tu vas sur une option qui est pas prévue dans le développement scénaristique, ils te font revenir en fait un peu avant Et du coup, ils te font en fait refaire le truc et tu dois re-choisir la bonne option.
Ah oui, d'accord. Tu dois bien voter.
Si, voilà, ouais, exactement. Voilà. Comme si t'avais pas bien choisi.
D'accord.
Mais en fait, ça, la première fois, du coup, c'est marrant parce que tu dis, ah ben non, je vais revenir en arrière, faut pas que je me trompe.
Ouais.
Et après, en fait, finalement, tu te lasses un peu de ça parce que tu dis, bah, c'est quand même un peu couillon qu'on me propose une proposition sur laquelle ils ont pas fait le travail, quoi.
Ouais, ça me gavait un petit peu aussi dans le sens que moi, j'étais la première fois, j'étais mince, ok, bon, allez, concentre-toi, c'est bon, allez, on y va. Et du coup, là, je faisais ça. Et après, j'ai vu que bah, je me suis trompée une deuxième fois. Et en fait, on est revenu. Au début aussi, je dis, bah, c'est pas possible. Et après, ouais, je me suis rendu compte que, en fait, comme quand j'étais petite, on avait le livre comme ça aussi.
Oui.
Et en fait, j'étais toujours très déçue. En fait, comme enfant, j'étais tellement ah, cool, je vais jouer. Et après, je lisais tout, en fait. Je faisais un peu, après, je faisais mes choix.
Ah, oui.
Je fais une deuxième relecture pour voir un petit peu où ils ont allé avec. Et j'étais, ah ouais, ils ont hyper paresseux, ces gens. Parce que c'était vraiment pas bien fait. Et, et après, je me trouvais le petit Teresa aussi, en regardant ces trucs Netflix, en disant,
oui.
Ah ouais, les gens, ils ont pas changé depuis les années 80, quoi. C'est toujours le même genre qui fait rien.
Alors,
en fait,
c'est pas les mêmes, pardon, c'est pas les mêmes qui faisaient les livres et qui ont fait cet épisode, à tel point qu'en fait, ils sont en procès. Il y a justement une des maisons d'édition principales qui faisait les livres dont vous êtes le héros, en fait, qui attaque Netflix sur le principe de choix, oui, pendant le truc. Oui, oui.
Waouh.
Ouais.
Ouais, alors, enfin, ça, bon, on verra bien si c'est une
opération de com.
Ouais, je pense que c'est une opération de com pour relancer un peu les livres dont vous êtes le héros, parce que moi, bizarrement, j'en vois plus du tout apparaître.
Mais c'est parce que tu n'as plus 10 ans, en fait, mais il y en a toujours, il y en a plein.
Je suis une grande enfant.
Il y en a beaucoup.
Alors, figure-toi que je m'intéresse à la littérature des enfants de 10 ans pour des raisons obscures.
Ouais.
Et
si tu tombes à lui 2 ans de prison, déjà, il faudrait quand même que tu t'arrêtes.
Non, mais du coup, c'est vrai qu'il y en a quand même moins. Parce que j'en ai cherché, en fait, il n'y a pas très longtemps, et tu vois, j'en ai pas trouvé. Bah, j'ai demandé
Non, mais il y a des nouvelles collections, il y a des trucs comme chair de poule, machin, etc. Enfin, bon,
qui ont développé.
Oui, oui, il n'y a pas que chez Folio et machin, ce qu'on connaissait avant, le fameux livre dont vous êtes le héros. Il y a des déclinaisons.
Juste pour revenir à ce qu'on disait, ce que j'ai trouvé du coup assez paresseux comme Teresa, c'est le fait qu'en fait, s'ils avaient vraiment voulu pousser la chose, on devrait revenir sur l'option sans s'en rendre compte. C'est-à-dire montrer qu'en fait, finalement, il n'y a pas de choix, en fait.
Ouais, voilà.
Parce que l'objet, c'est quand même ça. L'objet, c'est de dire qu'on est dans une société où on nous propose des choix qui n'en sont pas. Et donc, du coup, qui nous ramènent toujours aux mêmes extrémités. Et je trouve qu'on le vit pas, quoi. Et c'est dommage, parce que c'est tout l'enjeu de la série. Et autant il y a eu des épisodes de Black Mirror, moi, qui m'ont vraiment mis des frissons et qui m'ont terrifiée, autant là, je suis vraiment déçue par ce nouvel épisode.
Alors, je vous propose qu'on en termine là, justement, en faisant la promotion d'un des épisodes de la saison 1 qui s'appelle White Christmas, où il y a trois histoires qui s'enchevêtrent et qui, à mon sens, c'est un épisode de 2014 le plus réussi de Black Mirror, pour parler des choses qu'on a aimées, hein, parce qu'on ne va pas passer du temps finalement à pourrir des trucs qu'on n'a pas aimés. Moi, je n'ai pas mis un film, et j'en ai vu un des merdasses, donc je ne vais pas parler de trucs que je n'ai pas
aimés. Bon, allez, Romain, balance une série que tu as aimée, alors.
Alors, moi, j'ai regardé... on ne va pas en parler tout de suite. Alors, j'ai regardé un truc...
Les choses que t'aimes, tu veux pas en parler tout de suite.
Non, mais parce qu'il y a une musique.
Non, bon, il garde la cerise.
Ça suffit maintenant. J'ai regardé une série de super-héros. Moi, ça faisait très longtemps que j'avais décroché de ce truc. Et en fait, il y a une série qui s'appelle Titan. C'est 11 épisodes. Il y a une saison. C'est sorti donc en 2018. C'est des épisodes de 45 minutes. Avec en gros, c'est un peu des super-héros qu'on connaît pas, enfin, à part Robin qu'on connaît, hein, l'acolyte de Batman. Mais donc, c'est une fille en fait qui est en danger, qui est apparemment dangereuse, et Robin essaie de la protéger. Et puis, il rencontre d'autres personnes qui ont des pouvoirs assez surnaturels, avec un grand méchant, etc. Ça, tel que je le décris, ça pourrait paraître très binaire et très très faible. Et en fait, c'est très bien réalisé, surtout les deux premiers épisodes. C'est Brad Anderson qui fait ça, qui avait réalisé The Machinist avec Christian Bale il y a assez longtemps. C'est vraiment pas mal. Il y a un petit creux au milieu de la saison et ça se termine formidablement, à tel point que j'aimerais bien que la saison 2 sorte demain, mais il va falloir attendre encore un petit peu. Donc ça s'appelle Titan, et donc c'est DC, c'est les concurrents de Marvel en fait qui font ça, et c'est vraiment pas mal. Voilà. Je vois que ça vous inspire.
Non, non je, j'ai écouté, j'étais en train de penser, voilà, le super-héros, on a toujours le truc et c'est impressionnant. Parfois, il y a de nouvelles angles quand on voit sur ça et c'est intéressant.
Oui, oui, c'est pas mal. Ce qui est bien, en fait, c'est que c'est plutôt sur, sur le côté... on les voit un peu à l'œuvre avec leur pouvoir, etc. Mais c'est plus... des gens en fait qui s'entraident avec la fille qui a des soucis, c'est une adolescente. Voilà, c'est plus sur des évidemment des histoires de relations et de cas d'identité. Donc voilà, donc c'est pas mal du tout. Ça s'appelle Titan et ça parle aussi, ça passe aussi sur Netflix. Voilà. Des films peut-être, hein, ou on finit avec les séries comme ça on n'en parle plus, comme vous voulez, je sais pas.
Ouais, bah, je peux parler vite fait de notre série qui est un peu bizarre comme série. C'est pas une série avec une histoire, c'est Tidying Up with Marie Kondo. Tu l'as vu pas?
Non.
C'est une japonaise qui, il y a 10 ans, elle a lancé un livre. Comment ranger ton appartement, ton espace et tout ça.
Ah oui, d'accord.
Donc, je regardais un épisode juste parce que je me suis dit, bon, il faut que je range ma chambre quand même. Franchement, elle a le bon conseil à donner. Mais j'ai vu beaucoup de trucs sur l'Internet. Plein de gens, ils sont hyper énervés par cette série parce que les familles américaines qui sont bah, les personnes qui ont besoin de ranger l'appartement, la vie, ils sont vraiment pénibles et frustrants comme personnes. Comme...
Les gens qui ont besoin d'aide ou les gens qui aident?
Non, les gens qui ont besoin d'aide.
Ah, oui.
Et apparemment, c'est hyper frustrant à regarder. Moi, je regardais le premier épisode, je voyais ce que les gens disent par rapport à la famille. Ils étaient un peu difficiles à aimer. Quoi.
Récalcitrant, en fait, c'est ça?
Comment?
Ils ne sont pas contents qu'elles viennent les aider?
Oh, si, mais ils sont juste, ils râlent.
Ils aimeraient bien qu'elles fassent à leur place.
Ouais, ouais, exactement.
Ils veulent une femme de ménage.
Un petit peu, quoi. Ouais, exactement.
En fait, il y a un peu un côté télé-réalité, non, dans cette série. Ouais. Moi, c'est l'impression que j'avais, en fait.
Ouais, c'est un peu ça, ouais.
Et du coup, c'est vrai que ça m'avait pas.
Ouais, ça m'a pas inspiré. Bah, juste pour ranger, avoir la petite astuce, peut-être, elle est la bonne chose à faire. Mmh. Mais franchement, ouais, bah, je regardais la première comme ça et c'était bon, voilà, c'est quelque chose de différent à parler, mais bon, voilà.
D'accord.
Donc.
Ouais, non, moi je regarde plutôt les pastilles sur YouTube, là, qui s'appellent Do It Yourself. T'as des trucs rigolos, très, très malins, en fait, quand t'as pas un sou pour faire des trucs chouettes. Et voilà, il y a du rangement aussi, forcément.
Ouais.
Vous avez vu la saison 3 de 10%?
Oui.
Et non.
Quoi?
Still not. Mais je vous ai dit, grosse cure de désintox, là. Grosse cure de désintox.
Oh, là, franchement.
Ah bah si, j'ai pas vu non plus les derniers épisodes de Trou Détective, je suis à la masse. Hein.
Waouh.
Ok.
Ça a changé.
Et ben, on va en parler sans faire trop de spoilers, sans faire de spoilers du tout. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette saison 3? C'est avec qui le premier épisode? On peut le dire, ça, avec qui il y a les épisodes?
Oui, c'est avec Jean Dujardin, non?
Ah oui.
Ouais.
Ah, oui.
Et, et bon, franchement, je trouvais que c'était très drôle, mais je regardais un petit peu en mode... Bon, je regardais sur la télé.
Oui.
Et en fait, ils ont diffusé 2 épisodes à la suite chaque mercredi soir.
Ouais.
Et j'étais, je regardais en mode binge. Bah, 2 épisodes, c'est pas trop binge, mais bon, je regardais comme ça. Et après, je veux dire, d'être honnête, j'oublie un petit peu la série. Ouais, c'est la première saison, je kiffais et tout, et là, je suis pas déçue, j'aimais bien, mais je pense que c'est pas si bon que les épisodes précédents.
T'es déçue ou t'es pas déçue? Tu prends du plaisir, mais un peu moins.
Oh, si, ah oui, un peu moins, voilà.
Eh oui, ça devient un vieil amant, en fait.
Non, il y a toujours un truc, c'est sûr, non, vraiment, non. Ouais.
Mais pas une saison de plus ou une saison de plus quand même? Ou là c'est quand même la dernière?
Ah non, je vais regarder encore une saison.
Encore un peu.
Ouais, grave.
Ouais,
ah non.
Non, franchement, ça vaut le coup. Moi j'ai trouvé en fait qu'il y avait de grandes faiblesses. Il y a un des épisodes les plus intéressants qui est l'épisode de la fête. Hein,
La fête, hein.
Voilà, où il y a du coup pas mal de révélations. J'ai trouvé qu'il y avait des séquences qui étaient franchement ratées.
Ouais.
Et c'était assez dommage.
Parce qu'on a fini sur une fête. Moi, j'en suis restée là.
Ah, c'est pour ça que je dis la fête,
oui,
pour que tu sois paumé. Mais tu vois, avec cette actrice, enfin, qui prend le rôle d'une actrice, etc., et où il la cache, machin, etc. J'ai trouvé ça un peu mal foutu. Il y avait des moments qui étaient d'une grande faiblesse, et en même temps, il y avait heureusement, il y avait des moments qui étaient très touchants, notamment sur la paternité et sur l'enfant et tout ça. Donc Mais globalement, ça reste quand même très très chouette.
Ah, c'est sûr. Hein? Non, mais globalement, c'est
l'épisode
top.
D'Isabelle Huppert est grandiose.
Ouais, ah, mais oui. Alors, moi, on m'a dit que c'était sublime. Ah, déjà, Isabelle Huppert.
Là, c'est vrai. Là, c'est génial. Saison. Ouais, franchement, ouais. Non, c'est vrai. Ça sauve les
saisons. Ça arrive quand?
À la fin, non.
Bah, y a 6 épisodes. Même si on te dit au début, ça marche. Hein, donc,
bon, ça va, ça va. Je pense que vraiment, je peux faire un effort pour.
Non, mais tu. Ouais, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de regarder.
Je vous propose une petite pause musicale, justement à propos de 10%. Donc c'est une série qui passe sur, qui passait sur France 2. À toutes. Et on est de retour sur Bobine, on parle de cinéma, de séries et autres images. Si vous voulez nous appeler, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, 04 91 08 28 15. 04 91 08 28 15.
Appelez nombreux.
Eh ben oui. Bon, ça y est, on a terminé avec les séries. Est-ce que vous avez envie de parler de films?
Tu vas pas nous parler de Trou Détective alors?
Trou Détective? Mais non, pourquoi? Il n'y a pas de sujet?
Ah bah si, attends, il y a les 3 premiers épisodes qui sont sortis.
De quoi? Ah, de la nouvelle saison?
Eh oui.
Incredible.
Ah bah, je pense que, au moins en termes de breaking news, ça vaut le coup d'en parler.
Oui, alors pas de spoiler. De spoiler.
D'accord, pas de spoiler. Donc
qui
reste
sont les
là.
Acteurs déjà?
Eh bah écoute, je te propose de refaire un petit listing.
Mais je sais plus. Ah oui, alors je crois que c'est Justin Lin qui réalise. Donc qui a fait beaucoup de films de la franchise Fast and Furious. Il me semble que c'est ça. Et les acteurs, je ne sais plus qui ils ont choisi. Bon, Ok, peu importe.
Alors vraiment pas de... Du coup, là, on est vraiment... On fait zéro risque de...
De quoi ?
Bah de dévoiler des choses.
Eh ben, on n'a qu'à ne pas en parler, puisque il n'y a que toi qui l'as vu. Tu veux nous dire quelque chose ?
Non, je dirais rien.
Est-ce que les trois premiers, enfin, ou les deux premiers épisodes t'ont donné envie de voir les autres ?
Ah oui. Beaucoup.
Ah oui, grave.
Ah.
Vénère, à fond, ok. Bon.
Du coup, c'est avec la saison 2, Colin Farrell.
Ah oui.
Rachel McAdams.
Oui.
Taylor Kitsch.
Oui.
Kelly Reilly et Vince Vaughn.
Mais non, c'est la saison 2, ça. Là, on parle de la saison 3.
Alors, je sais pas.
Ah, tu sais pas. Ok. Bon. Et toi, Teresa, tu suis
Non, j'ai jamais. Ben, j'ai raté ça. Ah, mais ouais, je pense que ben, c'est un truc. C'est pas sur Netflix, quoi.
Non.
Du coup, là.
Je crois que c'est HBO. Hein.
Ah, d'accord. Oui. Ouais.
La saison 1 était vraiment formidable. La saison 2 l'était beaucoup moins.
Okay.
Mais la saison 1 était incroyable avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson.
C'est dingue. Ah ouais. Ah,
vraiment dingue. D'accord. Vraiment super.
Okay.
Bon, bah, saison 3, on verra. Ok. On passe au film, hein, pour de vrai.
Ok.
Non, Annabelle est définitivement en train de chercher. Non, il n'y a pas beaucoup de réseaux. Il va falloir parler là.
Scott McNairy, Stephen Dorff, ouais. Mahershala Ali et Carmen Ejogo.
D'accord, il faut qu'on remette les mots dans le bon ordre. C'est ça le concept ?
Exactement.
Ok, d'accord. Un réalisateur ?
Un réalisateur.
Voilà.
Ben non, surprise.
D'accord, ok. Bon, excusez-nous, c'était le moment creux de Bobine, épisode 1. À propos de Matthew McConaughey, moi, j'ai vu un film qui s'appelle Gold, avec Matthew McConaughey, qui est sorti en 2016, je crois. C'est le réalisateur de Syriana, et il nous raconte en fait l'histoire des orpailleurs modernes. Donc des gens qui cherchent de l'or à travers le monde, mais à notre époque.
Ah ouais.
Et c'est une histoire assez saisissante, assez pleine de rebondissements. C'est un très très chouette film, un peu sur le mode polar, avec il y a de l'or, il y a pas de l'or. Est-ce qu'ils vont arriver à financer le truc, machin, etc. Donc ça se passe entre du coup les États-Unis et l'Indonésie. Avec un Matthew McConaughey chauve, enfin bon, c'est vraiment ça vaut le coup. C'est chouette, ça s'appelle Gold du
D'accord.
coup.
D'accord. Ouais. Très bien. Ok, à voir.
Vous êtes allé au cinéma ?
Oui.
Oui.
Oui. Ouais. J'ai vu. Est-ce que vous avez vu Colette ?
Non.
Ah, pas encore.
Je ne suis pas allé voir Colette.
Ah, ok.
Tu as aimé ?
Ouais, c'était très bien.
Ah,
ouais,
oui,
moi, je suis fan de films en costume là.
Des films historiques.
Ouais, voilà. Ah, ouais, oui. Ouais. Et c'est pas. C'est. Bon, peut-être pour les Français, vous n'allez pas aimer parce que c'est Keira Knightley qui prend le rôle de Colette, quoi. Donc c'est en anglais.
Ben, on n'a rien contre.
Non, dans le sens que c'est Colette, l'écrivaine française.
Ah oui, avec la vision britannique.
Donc
d'accord.
Voilà. Donc oui. C'est. Là, après, je vais regarder ça avec des Français, ils ont bien aimé aussi.
Mm-hmm.
Mais c'est vrai que peut-être.
Mais elle parle français dans le film ou elle parle anglais ?
Non, anglais.
Ah, anglais.
Ouais, oui, c'est un film anglais en fait.
Okay.
Et c'est vrai que les Anglais, ils sont assez forts de faire le film en costume de drame.
Mm-hmm. Drame historique.
Voilà, ouais. Merci. Et oui, ça raconte un petit peu l'histoire de elle avec son mari Willy qui a pris. Bah, c'était comme si c'était lui qui a écrit le livre Claudine.
Ouais.
Claudine à l'école et tout ça. Donc ça commence. Et le mec qui joue Willy, il est super. Il joue vraiment bien. Il est hyper frustrant parce qu'il est juste horrible comme mec.
Mm-hmm.
Mais c'est super en fait la relation. C'est vraiment toxique et tout, et c'est bien à voir comme il fait ça. Et après, ça montre vraiment cette personnage et comment elle grandit, comment elle devient sa propre personne. Mmh. Donc c'est quand même très intéressant comme film. Et je ne sais pas si ça sera intéressant pour les autres Français vous êtes un peu plus puriste et vous préférez regarder quelque chose comme ça en français. Et que je peux tout à fait comprendre. Mais comme je suis anglophone, pour moi, ça ne me dérangeait pas.
Ah, c'est ça, tes accents, d'accord. mais si je t'ai bien suivi, en fait, si on n'a pas lu Colette, on peut apprécier ce film.
Ah, bah.
Oui.
Bon, voilà. Bah, ouais. Peut-être.
Ok. Bon.
Ouais, ouais. Donc, voilà, moi, je trouvais que c'était bien fait.
D'accord.
Mm-hmm.
Quoi d'autre, Annabelle ?
Alors moi je suis allée voir pas mal de choses quand même au cinéma finalement.
Comment tu te la pètes ?
Juste pour parler de la fin de l'année, ouais, j'ai arrêté les séries, du coup je vais plus voir de films. Je suis allée voir Le Grand Bain qui pour moi a été une très très belle expérience cinématographique, probablement la meilleure comédie de l'année dernière.
Waouh.
Oui. Oui, bah oui.
C'est une comédie du coup sur la masculinité, tout en douceur, tout en bienveillance sur l'homme. Et ça fait plaisir en fait de voir ça au cinéma, ça fait plaisir de voir un film sur les hommes avec moins de testostérone que d'habitude.
Ouais.
Et en fait ça parle de la dépression et des hommes et c'est très joliment formulé. Et je pense que ça permet aussi de baisser peut-être la pression qu'exige la domination masculine sur les hommes.
D'accord.
Donc c'est, voilà, c'est très réussi.
Oui.
C'est un film de Gilles Lellouche. Voilà, donc le seul animateur masculin répond oui à tout.
Oui, oui, non, c'est vrai. C'est chouette venant de Lellouche qui a souvent des rôles de par son physique un peu bourru, un peu. Enfin voilà. Et il a la grande intelligence de ne pas jouer dans son film. Et c'est vrai que c'est très drôle, en fait. Ouais. C'est vraiment réussi, c'est touchant. Et c'est là où, en fait, où c'est, les comédies en fait, réussies le sont. C'est quand c'est à la fois très drôle et très touchant. Et là, c'est le cas avec des personnages qui sont vraiment fascinants. Les deux entraîneuses, une qui est complètement dépressive, qui est jouée par Efira, et l'autre qui est en fauteuil roulant et qui est. C'est
presque autoritaire.
C'est Pol Pot en fauteuil roulant qui parle français, quoi. C'est bah bon, mais oui, c'est vraiment très très drôle et c'est vraiment très bon. Le ouais. Grand Bain, hein, il faut que tu vois ça. Ça
va. Ouais, ouais, plein de gens me parlaient de ça et j'ai envie de voir. Ouais, ouais. Ouais.
Après, je crois qu'on a une grosse actualité film musicaux, non ? Est-ce que du coup, il y a eu la sortie de Leto et la sortie de Bohemian Rhapsody ?
Ouais.
Alors c'est du coup, sûr. Moi, je suis allée voir Leto et vous êtes allée voir Bohemian Rhapsody, si je ne me trompe pas.
Alors parle-nous de Leto d'abord.
Alors Leto, c'est super. Hein. C'est une superbe histoire sur l'émergence de groupes de rock dans l'Union soviétique. Donc avec du coup le combat pour faire exister le rock qui est symbole en fait de la culture américaine. Donc forcément mal reçu.
Ah oui.
Donc le rock en fait se regarde assis dans des salles de spectacle où il est interdit de se lever pour danser et donc du coup un peu comme un opéra très solennel et donc voilà c'est comment ces groupes de rock essayent de faire vivre de la liberté, de la résistance dans le cadre de l'Union soviétique, c'est-à-dire sans non plus jamais aller jusqu'à transcender le cadre hein, finalement de l'URSS en acceptant les règles tout en essayant de trouver une voie pour faire exister cette liberté culturelle. Donc c'est assez intéressant. Le réalisateur d'ailleurs a fait de la prison, pas pour ce film mais parce qu'il est considéré comme un agitateur politique en Russie, donc ça en dit aussi long aujourd'hui sur le régime et justement la poursuite en quelque sorte de cet autoritarisme dans le régime russe. Mais voilà, c'est très bien. Moi, ça a sonné à mes oreilles un peu comme un Good Morning England, donc vraiment comme une...
Et est-ce que ça a été produit en Russie ?
Oui.
Ah, ça c'est déjà prometteur.
Mais voilà, ça sonne vraiment comme une fable musicale.
D'accord.
C'est un beau moment.
Très bien.
Et est-ce qu'il va refaire de la prison pour il est inquiété par rapport à ce film ou pas ?
Il est inquiété en tant qu'agitateur politique globalement. Donc ce sera pas par rapport à ce film, mais c'est par rapport à l'ensemble de ses activités en tant que.
D'accord. Ok. Et c'est un. Est-ce que c'est un premier film ?
Non, c'est pas un premier film, me semble-t-il.
D'accord. Bien, bien, bien. Oui, Bohemian Rhapsody. Tu as vu ça, Teresa ?
Oui.
Oui. Alors ?
Ouais, j'adorais. Non, t'as pas aimé, toi ?
J'ai pas beaucoup ressenti.
Eh, ok, d'accord. Je vois ce que tu veux dire.
Et en fait, en cherchant des infos sur le film, parce que j'aime bien faire ça de temps en temps, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait un premier projet.
Ok.
Qui avait été avorté parce que trop politiquement incorrect.
Ah.
Avec plus de sexe, avec plus de drogue, avec plus de bas-fond.
D'accord.
Qui a été l'acteur en fait, c'était Sacha Baron Cohen qu'on connaît pour Borat.
Ouais.
Et le réalisateur c'est Stephen Frears qui était un réalisateur assez comment dire
politique.
Oui, sulfureux. Bon, surtout en 92 je crois ou 93 quand il sort Les Liaisons Dangereuses, qui s'est un peu assagi, mais Bon voilà, le premier projet c'était ça. Et en fait, il y a un des membres, le guitariste de Queen, qui a dit non, faut faire quelque chose de plus respectueux pour la mémoire de Freddie Mercury. Donc quelque chose de plus lisse, beaucoup plus lisse, enfin plus centré un peu sur son, comment dire, sur sa sexualité, sur sa quête sexuelle et sur sa quête identitaire en fait. Mm-hmm. Et moi j'ai malheureusement peu ressenti. Ce que je trouve éminemment réussi dans le film, c'est la séquence du concert de Live Aid où la reconstitution est étourdissante, vraiment. Et j'ai vu ça en 2D, alors j'imagine qu'en 3D c'est dingue. Mais voilà, le film s'ouvre sur un Freddie Mercury qui va monter sur la scène, sur une scène avec donc le stade de Wembley et 100 000 personnes dedans. Mmh. Et c'est waouh, c'est vraiment fort. Là, ça, c'est vraiment très fort.
Ouais, ouais. Ouais. Il y a des moments comme ça dans le film que je pense que sont oui. touchants. Mais je vois ce que tu veux dire. Et j'avais des amis qui m'ont dit avant que je suis allée, c'est énorme, tu vas adorer, c'est trop bien, waouh, tout le monde chantait dans notre cinéma et tout ça. Et moi, je suis allée, je suis dans le bon cinéma parce que
ça prépare c'était... pas un grand moment. Ça, quand on te dit c'est génial, c'est génial, c'est génial, ça, tu vas voir.
Ouais, bah, c'était bon, franchement, je trouve, j'ai adoré dans le sens que j'adore Queen, la musique. Donc pour moi, c'était pour avoir ces petits moments en écoutant la musique et en voyant un petit peu comment quelques pièces de musique étaient mises en forme en fait.
Ouais.
Et c'était plutôt ça pour moi, c'était intéressant. Mais au niveau d'un film, je ne vais pas dire que c'est le meilleur film de l'année.
Il y a la séquence de création quand il se retire dans une maison paumée, etc.
Ouais.
C'est vraiment chouette.
Là, c'est chouette. Et aussi quand ils sont dans le studio, là, pour la première fois aussi, un peu expérimental. Ouais. Là, il y a des moments comme ça où je dis, ah, c'est chouette. Et on a une petite vision dans la vie et la vie créative et comment ils faisaient les choses. Parce que pour moi, c'est un génie, quoi, la façon de faire la musique, ces chansons-là qu'ils ont fait, c'est un truc de ouf. Et pour moi, c'était plutôt en essayant de, je sais pas, avoir une connexion avec cette musique plus que regarder le film, en fait.
Et moi, il y a un truc qui m'a manqué quand même, c'est qu'au début, en fait, on n'a pas trop la jeunesse d'où ça vient son talent, mais en fait, dès qu'il a 10 ans, en fait, Freddie Mercury, en classe de musique, évidemment, tout le monde a compris qu'il était surdoué. Les profs, le directeur de l'école le disent à ses parents, etc. Et tout ça, c'est un peu absent du film.
Ouais,
en fait, on a l'impression qu'il griffonne des chansons et qu'il a 2-3 musiques dans sa tête, mais que ça vient d'un coup, comme si ça venait quand on le découvre, donc vers 18 ans ou 20 ans.
Ouais.
Alors que c'est plus vieux. Moi, je trouve que ça manque un tout petit peu ce petit repère historique.
Histoire, ouais.
Parce que c'est de la frustration, en fait, et depuis qu'il est tout petit, en fait, il rêve de musique, il pense à ça, etc. Et il compose dans sa tête. Alors qu'on a l'impression que ça commence, parce que ce qui commence, c'est le fait de se lancer, de vouloir se représenter, de se montrer, parce qu'évidemment, il y a la tradition de sa famille qui l'empêche, et son père surtout, et tout ça. Mais oui, voilà. Mais bon, globalement, ça reste un film très agréable, qui, je pense, plaît beaucoup, puisqu'il y a des millions de personnes qui sont allées le voir, notamment en France. Et oui, pour la séquence de Wembley, c'est vraiment. C'est chouette. Mmh. C'est vraiment chouette.
Ouais.
Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on fasse le deuxième moment musical qui va durer 6 minutes, qui est en rapport avec
6
Queen.
Minutes, comment ça peut être?
Ah là là, qu'est-ce que ça peut bien être? Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a cool boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone.
see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the bandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Figaro,
Magnifico.
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah,
no, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Never let me go.
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go.
Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
Et on est de retour en fait sur Radio Galère pour l'émission Bobine. On parle de ciné et de séries. Et les séries, c'est fait. On en a déjà parlé. Alors, mesdemoiselles, de quoi vous voulez me parler ? Enfin, nous parler de d'autres films ? Après,
bah, on va continuer sur les films, peut-être, non ?
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce que je sais pas. Moi, j'ai vu quelques petits films. Mais vous n'avez pas vu le même, donc.
Non, on va peut-être parler des films. On n'a qu'à faire la série. On a vu des films au cinéma.
Ok.
Et alors, qu'est-ce que vous avez vu au cinéma d'autre que Bohemian Rhapsody ?
Moi, rien. Rien autre.
Toi, rien ?
Oh, bah, Colette.
Mais... Oui, Colette, ouais. C'est bon, tu en as parlé. Et toi, Annabelle ?
Bah, Leto et Le Grand Bain, mais j'en ai parlé aussi.
Ah, d'accord. Ok. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai vu ? Alors, j'ai vu Astérix. Bon, je ne vais pas en dire sensiblement. C'est chouette. J'ai vu ça avec ma fille de 10 ans. On a bien rigolé. Voilà, c'est pas un film essentiel, mais c'est un bon moment. J'ai vu un des films les mieux notés en ce moment, c'est Border. C'est une des révélations de Cannes à la, je sais plus quelle compétition. Je crois que c'est Un Certain Regard.
Les films Un Certain Regard, en général, c'est prometteur.
Ouais. Alors j'ai vu ça au César. Ça passe en VO. C'est donc un film suédois. Qu'est-ce que je vais vous dire ? C'est un film. Ça commence en fait sur une fille, une femme, d'une laideur abyssale, mais vraiment, mais laide, mais tu vois une femme cro-magnon, moche, vraiment très moche, qui travaille à la douane dans la douane des bateaux ou des, enfin ouais, je crois que c'est ça, et la douane maritime. Et donc elle contrôle, et en fait elle a un odorat de dingue. Et elle arrive à retrouver, à sentir des choses. Et au-delà des objets, de la drogue ou des saloperies, elle arrive à renifler aussi la culpabilité, la honte, la peur et tout ça.
Waouh.
Et donc, mais voilà.
Attends, il faut que je sache. Est-ce que c'est une comédie ou c'est un peu horreur?
C'est un thriller, non?
Alors, ouais. Non, c'est un film fantastique avec des bouffées plutôt drôlatiques.
D'accord.
Et des moments graves, parce qu'il y a un sujet de fond dont je ne vous dirai rien, mais qui va se traiter. Ou ce que je pourrais en dire, c'est qu'à un moment donné, donc elle va arrêter un type qui a sur lui une carte mémoire pédophile. Ça, c'est le premier élément qui est la première trame du film. Et le deuxième, c'est qu'à un moment donné, elle va croiser dans son métier un mec d'une laideur abyssale. Qui semble être un peu, t'as l'impression que c'est son frère, tellement ils sont moches tous les deux, et va se nouer une espèce de, elle va le contrôler et va se nouer un lien. Et je n'en dis pas plus, mais il y a vraiment un sujet de fond là-dessus. Et c'est évidemment un film sur la différence, mais c'est assez brillantissime, c'est assez dérangeant, pas que par le côté laideur.
Ben, c'est le principe des films en certains regards. Hein.
Oui, c'est ça. Moi, je trouve globalement, c'est assez dérangeant, etc. Il y a des moments qui sont très déroutants. Globalement, deux jours après, c'est vraiment un film important, je pense. Mm. C'est vraiment un chouette film. Voilà. Mm-hmm. Il faut aimer le fantastique un peu, quand même. Si on n'aime pas le fantastique, il ne faut pas y aller. Voilà. Mais c'est vraiment une franche réussite et il y a beaucoup d'audace dans ce film. Voilà.
D'accord.
Ça vaut le coup. Donc ça s'appelle Border. Mm-hmm. Et vous pouvez aller le voir au César, par exemple.
Par exemple.
Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre au cinéma? Pas tant ça. Ben non, voilà, c'est tout. Hein, fini. Non, c'est ça. Non. Voilà, moi j'ai fini le cinéma. Bon, bah, on repasse aux autres écrans. Qu'est-ce que vous avez vu de vraiment bien qui vous a marqué?
Mudbound, sur Netflix.
Mudbound.
Ouais, M-U-D. B-O-U-N-D.
Ah, Mud. Comme
La boue.
La boue, oui, c'est ça, d'accord. Ok, ouais. Mudbound.
Ouais, okay. Et du coup, c'est dans le Mississippi, aux États-Unis. Et c'est deux familles liées avec une ferme coton où il y a le propriétaire et la famille africaine-américaine qui travaillent sur cette ferme. C'est Carey Mulligan, elle joue le rôle de la femme qui est mariée avec le mec qui a décidé de changer la vie et aller à la Mississippi pour essayer de faire la vie. Et Mary J. Blige, c'est la maman de la famille african-américaine. Et en fait, elle a un fils qui part à la guerre juste comme le beau-frère de Carey Mulligan part aussi. Et du coup, en fait, les deux familles sont cette histoire qui est liée quand même. Mm-hmm. On attend de voir si le garçon revient. Et on voit que même après tout ce qu'ils ont fait, les Américains, les Africains-Américains, pour le pays et pour la paix, il y a toujours le racisme très, très profond et très dégueulasse aux États-Unis à cette époque-là.
Oui, oui.
Donc, c'est un très, très bon film, très triste et ça... C'est touchant et c'est aussi... il faut regarder les films comme ça qu'on ne peut pas continuer de réagir dans le même... Ou au moins qu'on se rend compte que c'était atroce à cette époque, il ne faut pas que ça se reproduise.
Et oui, mais comme c'est fini, tout va mieux. Et donc, on prévoit de ne pas aller voir... On ne va pas boire un verre avec ses potes après. On peut. Alors, sauf s'ils ont vu le même truc éventuellement. Ok.
Quoi?
Non, c'est trop plombant pour aller
après
voir.
Ah, si. Non, mais si, parce que c'est. En fait,
si ça donne envie de se droguer, c'est.
Non, il y a une belle histoire d'amitié et d'amour dans le film aussi. Donc, en fait, il y a quand même, même s'il y a des choses qui se passent qui sont tristes et horribles, il y a aussi un peu d'espoir aussi. D'accord. À la fin. Donc, c'est. Ouais, ça va.
Ok.
Ouais.
Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Il est 18. Est-ce qu'on fait un petit blind test tout à l'heure ou pas?
Comme vous voulez, bah je lui suffit de mettre sur mon téléphone et je peux tout.
On va juste arrêter à 25 parce que exceptionnellement je vais vous passer un extrait. Je vous dirai de quoi. Moi je peux faire une. J'ai vu pas mal de comédies récentes ou moins que je vous conseille. Je vais aller assez vite, mais ce que je vous conseille de voir, j'ai vu Tout pour être heureux avec Manu Payet.
Ok.
Sur la paternité, c'est chouette, c'est vraiment chouette. J'ai vu un peu moins drôle Pris de court avec Virginie Efira et son ado qui fait des bêtises et il faut qu'elle rattrape tout ça. C'est pas mal du tout. Donc, mère célibataire avec deux enfants, c'est un chouette film. Vraiment plus comédie, photo de famille avec Bakri, Camille Cotin, une vraie réussite. C'est vraiment, vraiment très chouette. Ça, le film commence, papy est mort, hein, tout le monde est à l'enterrement. Et mémé débloque et elle parle d'aller à Saint-Julien. Donc il y a un endroit où ils ont passé une partie de leur enfance. Et ils passent tout le film à essayer de gérer les problèmes de mémé. Et voilà, et c'est touchant et drôle. Donc c'est vraiment réussi. Dans la série Touchant et un peu moins drôle mais plus fort, il y a Plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré, notamment sur la problématique du sida. Comment ?
On en a dit beaucoup de bien.
Oui, je pense que c'est le film le plus réussi de Christophe Honoré. Donc c'est le parcours en fait d'un écrivain séropositif qui fait des rencontres, mais c'est plutôt joyeux et enlevé avec Vincent Lacoste et Denis Podalydès. Non, c'est vraiment chouette. Une vraie comédie drôle avec un peu de sens, ça s'appelle Dépression et des potes, c'est avec Fred Testo, Jonathan Lambert qui est drôlissime dans un conseiller fiscal, un truc comme ça, où il est avocat fiscaliste, et Arié Elmaleh, donc le frère de Gad. C'est drôle en fait, c'est Fred Testo qui est en dépression, en fait tous ses potes veulent essayer de l'aider un peu mais eux aussi ils sont pas bien et c'est réussi aussi. Donc ça c'est français, et côté américain, un truc qui est touchant et drôle, c'est Le Nouveau Stagiaire avec Robert De Niro et Anne Hathaway.
Ah, j'adore ce film.
Et ce film est vraiment réussi. Donc c'est Anne Hathaway qui gère un business en ligne de fringues, et ils ont passé un deal, je sais pas, ils doivent prendre des stagiaires retraités, et voilà, et De Niro, 70 ans, postule, et c'est vraiment très chouette.
C'est beau, c'est très touchant. C'est vraiment beau, ce film.
Ouais, bien sûr. C'est très mignon, c'est très réussi. Voilà, donc ça c'était pour les films plutôt drôles. Il y a Rouler Jeunesse aussi avec Eric Judor qui dépanne tout le monde en fait. Il travaille avec sa mère dans une entreprise de dépanneuse. Et jusqu'au jour où il dépanne une fille, qui la ramène chez elle, et en fait la fille disparaît, et il tombe sur les mômes, et il se retrouve à gérer un môme. Finalement il y en a deux, finalement il y en a trois. C'est vraiment très très chouette. Donc ça s'appelle Rouler Jeunesse.
Ok.
Voilà, qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Ah, j'ai vu Truman avec Ricardo Darín. Ça, c'est un film argentin sur l'histoire d'un gars qui reste plus beaucoup de temps en fait parce qu'il a un cancer et qui a un chien qui s'appelle Truman. Et il y a un vieux ami qui vient le voir et voilà, c'est sur les derniers moments de cette amitié. Qu'est-ce qu'on va faire du chien, tout ça, et c'est très beau. Dans les films historiques, parce que toi tu aimes ça, j'ai vu Les Heures Sombres, Darkest Hours, le film sur Churchill.
Ouais, d'accord.
Et c'est vraiment réussi.
Ah,
c'est
bien.
C'est vraiment chouette. C'est,
ok,
c'est très,
je vais
très
regarder
bien.
Ça. Ouais.
Ouais, ouais. Moi j'ai pris un grand plaisir à voir ça. Ouais,
c'est
ouais.
qui joue le rôle de Churchill ?
C'est qui ?
C'est qui ?
C'est Gary Oldman.
Ah ouais, waouh, ok, ouais, très bien.
Non, c'est très, très réussi.
Ok.
Alors, il y a plein d'autres films, et pour aller vite, un autre film qui m'a marqué, alors là on est vraiment dans du drame, c'est Dogman, film de Matteo Garrone.
Avec Nicole Kidman, non.
Non. Ah, non, c'est autre chose. Dogman, c'est un film, ça se passe en Italie, dans une banlieue, je sais pas où on est pas trop loin de Rome, je crois, mais bon, dans une espèce de petite cité balnéaire où il y a un vieux boxeur à moitié fou. Qui est en relation avec un gars qui est le toiletteur en fait de la ville, qui s'occupe des chiens, donc le Dogman. Et c'est l'histoire un peu d'une descente aux enfers avec cette relation toxique. parce qu'il l'embarque sur des coups. Enfin, tu vois, il lui dit viens, machin, il l'amène, il va faire un casse avec un type. Enfin, bon, bref, il est pris dans une espèce de spirale parce que lui, il fait. Enfin, tu vois, c'est un coton-tige et l'autre, c'est une baraque. Et c'est compliqué de dire non à un type qui peut t'envoyer sur une autre planète avec la main gauche. Et c'est vraiment chouette ce film. Enfin, c'est un beau film. D'aucuns l'ont trouvé inutile et violent et tout ci et tout ça. Moi, j'ai trouvé ça, une autre histoire de l'Italie, peut-être. Vraiment réussi. Voilà. On se fait un petit blind test. Très court ou pas ? Est-ce qu'on en a un ? Non, on n'en a pas.
Si.
En même temps, il ne nous reste qu'une minute. Après, il va falloir balancer le.
Alors, est-ce que vous allez aller voir Glass ?
Oui, j'aimerais bien. Oui.
Bah attends, j'ai pas compris ça. Glass. On n'a pas encore vu ça, film.
Mais non.
Mais non, on mais a non. vu Split. Si.
Non, on a
ah,
vu
Incassable.
Alors attends, c'est non parce que c'est un jeu de. C'est tout ça est très intriqué. C'est les poupées russes. C'est qu'en fait dans Incassable, la némésis de Bruce Willis,
oui.
qui est joué par Samuel L. Jackson, s'appelle Glass. Effectivement, ouais, parce qu'il a des os de verre. Voilà, c'est ça.
Ok. C'est vrai que j'ai vu les affiches. J'ai dit, bah, attends, ça me dit quelque chose. Glass me dit quelque chose.
Je pense que c'est un peu pour rétablir, même si on a l'impression que ça va être plutôt être sur la bête quand même. En fait, il a quand même fait un épisode qui s'appelle Incassable. C'est un triptyque. Du coup, il y a Incassable, il y a eu Split, du coup, sur la bête.
Ouais.
Et là, Glass, le troisième film, parce que du coup, on a les trois qui sont réunis.
Ouais,
voilà.
D'accord. Ah, merci. Parce que là, ça m'a...
Voilà.
Ouais, ok. Sorry. Next.
Ben écoutez, on va se quitter là-dessus. Oui. Une fois n'est pas coutume, non, tu voulais nous dire un truc. Je vais vous passer un. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, Annabelle ?
Non, mais écoute, on en reparlera la prochaine fois, c'est très bien.
Pour un blind test, non ?
Ouais, est-ce qu'il y a d'autres films importants
non,
qu'on a envie d'aller voir ?
Il n'y a que Glass qui est important.
Oui, il y en a peut-être d'autres, je sais pas, mais moi, il n'y a rien qui me vient là.
La mule, non ?
Ah ouais, vous me direz. Vous me direz
je sais pas, c'est Clint Eastwood, donc normalement ça peut être pas mal, non ?
Ouais, pas
non.
toujours, je sais pas. Moi quand ils sont un film, j'ai jamais envie d'aller au cinéma.
Il y a Continuer avec Virginie Efira.
Virginie Efira, d'accord, ça je le note.
De Joachim Lafosse, donc ça a l'air pas si mal. Hein.
Ok.
Ma vie avec James Dean, si on veut rester dans le...
D'accord.
Dans le musical. Hein.
Ok. Alors une fois n'est pas coutume, on va finir l'émission sur un spectacle. Que vous avez peut-être vu, qui est sur Netflix, là, de Blanche Gardin. Donc, plutôt que de passer de la musique, je vais passer un extrait de sketch que vous connaissez peut-être.
Un extrait de sketch.
un sketch sur la fellation. On vous dit à bientôt, troisième lundi du mois, de 20h30 à 21h30. C'est Bobine et vous pouvez nous retrouver en podcast. Vous pouvez aller sur Facebook pour nous trouver. Rendez-vous le mois prochain.
Rendez-vous le mois prochain.
Merci, ouais. Mademoiselle.
Merci. Merci, Romain.
Bonne
Ciao.
Soirée.
Voilà, non, sinon la vie est assez triste. Enfin, c'est triste, hein, globalement, de revenir sur le marché de la séduction à 37 balais. Il n'y a plus trop de romantisme. Hein. C'est terminé. On ne cherche plus l'âme sœur. Hein. Ouais. On cherche l'âme seule, s'il en reste. Et puis on voit le vice des mecs à l'œuvre en plus, on voit les traquenards quand on a un peu vécu. Là, l'autre jour, j'ai bu un verre avec un mec et il s'était rien passé entre nous, mais bon, il y avait une petite tension quand même. Et du coup, bon, lui, il jouait à Monsieur Parfait, ce qui peut ne pas être désagréable quand c'est fait avec finesse. Hein. Sauf que là, le mec me dit, moi, le truc que je préfère faire dans la vie, c'est faire des massages. Ouais, je pourrais faire ça toute la journée, moi. Moi, tu me files des bougies, des huiles essentielles, une musique douce, c'est l'autoroute du kiff. Hein. Je masse. Mais toi, tu aimes bien qu'on te masse ou pas du tout, toi ? Bah non, bien sûr, hein, comme 99% des nanas, j'ai horreur qu'on me masse. Par contre, j'adore qu'on me prenne pour une conne, donc tu viens de marquer un point. Non, mais comme si je savais pas qu'une fois qu'on aurait baisé, le massage allait devenir une monnaie d'échange entre nous. Hein, c'est ça, les hommes adorent faire des massages la première semaine. J'ai l'impression qu'on est comme un tube de pommade, hein, avec la posologie sur le dos, massé jusqu'à pénétration. Après, c'est bon. Hein, Donc il faut arrêter avec cette technique de drague, les mecs. J'adore faire des massages. On est au courant, je veux dire que c'est valable pour deux massages spontanés. Hein. Peut-être trois, si le mec est vraiment dégueulasse et a besoin de lutter un peu plus pour se faire accepter, mais pas beaucoup plus. Alors, j'aime pas aller là-dedans, mais c'est vrai que là-dessus, quand même, les nanas sont quand même moins hypocrites et beaucoup plus classe que les hommes. Je veux dire, je pense qu'aucun homme dans cette salle ne s'est jamais fait draguer par une nana qui lui aurait dit « Moi, le truc que je préfère faire dans la vie, c'est sucer une bonne bite. » Ouais, oh, ouais. Ah non, non, moi, je pourrais faire ça toute la journée. Moi, tu me mets une bite dans la bouche, un coussin sous les genoux et un match de foot, c'est l'autoroute du kiff. Hein. Je suce. Ouais, c'est... Ah. Et toi, tu aimes bien qu'on te suce ou pas du tout, toi? Non, on fait pas ça. On fait pas ça. On est moins hypocrite parce qu'évidemment, la pipe aussi hein, deviendra une monnaie d'échange dans le couple qui vous coûtera 2 massages à peu près. Quoique non, même beaucoup plus que ça, en fait. Je pense que la pipe, c'est une arme de négociation majeure dans un couple. Genre, c'est lourd, même, je vois, comme pouvoir. Enfin... Un mec normal, je parle pas de mon ex là, mais un mec normal finalement pour qu'il reste, c'est relativement simple, hein, c'est binaire même. Hein, genre, tu le fais chier, tu le suces, tu le fais chier, tu le suces, il reste. Hein, c'est. Même si tu le fais chier, tu le suces, il reste. C'est magique, hein, ça c'est. Et d'ailleurs, ils ont une technique pour nous vous faire comprendre qu'ils sont arrivés à une overdose d'embrouille, vraiment, qu'ils n'en peuvent plus. C'est quand ils nous disent « Non mais là, tu me pompes !» Ça, c'est pas du présent de l'indicatif, hein, c'est de l'impératif, vraiment. Je veux dire, c'est le dernier appel de phare avant qu'il se casse. Il faut bien l'entendre à ce moment-là, je veux dire. Et puis, il ne faut pas avoir trop bouffé avant parce qu'il faut y aller, vraiment. Quoi. C'est... Alors... Puisqu'on parle de fellation, je voulais essayer de mettre au point quelque chose. Est-ce qu'il serait possible d'arrêter de nous mettre la main sur la tête et de la pousser comme ça pour nous indiquer le sens de la marche du truc ? Non, parce que c'est assez humiliant, en fait, parce qu'on sait dans quel sens il faut aller. Non, mais c'est simple, a priori. Il y a un cylindre, il y a un trou rond. Même un singe trisomique de 4 ans, il le sait dans quel sens il faut aller. C'est humiliant, vraiment. D'où ça vient? Je veux dire, personne ne vous a jamais sucé comme ça. À part Gilbert Montagnier ou Ray Charles. Mais c'est assez rare, quand même, de...